pour Moment 3. Le nombre de femmes victimes de viols et violences sexuelles a augmenté sensiblement ce dernier trimestre au Kasaï occidental. Le territoire de Dekissé vient en tête avec 270 femmes victimes de violences sexuelles, dont 50 souffrent de fistules vésico-vaginales. On aura tous les détails avec notre confrère qui est déjà en ligne, Pierrot Lamégie, avec qui on saura exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est fait pour aider toutes ces femmes victimes de violences sexuelles. Retenez que tout à l'heure, nous aurons comme invité Dr Aimé Mbouyo, médecin au programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Et puis nous recevrons également M. Barthélémy Nkata, inspecteur général des services judiciaires. Donc c'est vraiment l'occasion de réagir, vous, auditeurs de Radio Capi, au 081 070 20 50. Pierrot Lamégie, bonjour.
Bonjour Nicole.
Alors pour commencer, quelle ampleur prend exactement ce problème de violence sexuelle dans la province, tout à fait occidentale, ces derniers jours?
Nicole, les violences sexuelles sont devenues un véritable problème de santé publique dans cette province. Il ne se passe pas deux semaines qu'on ait noté un cas de viol ou violence sexuelle à travers la province du Kasaï occidental. Voilà un peu un gros plan, la situation des violences sexuelles dans cette province actuellement.
Vous savez que dans bien des cas, on aborde cette question concernant les violences sexuelles. Alors actuellement, quelle est la partie de la province qui est plus touchée par cette situation?
D'après le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, le territoire de Dekissé regorge le taux le plus élevé des victimes des violences sexuelles, avec environ 270 femmes recensées. Notons aussi que pour ces victimes, 50 d'entre elles présentent des problèmes de fistules vésico-vaginales qui sont l'une des conséquences néfastes des viols et des violences sexuelles, Nicole.
Est-ce que jusque-là, ces victimes arrivent à dénoncer les auteurs de ces actes de viol et de violence?
Et je crois que c'est là où il y a vraiment où le grand problème réside, le problème de la dénonciation, c'est un problème très sérieux ici en province. Beaucoup de femmes qui sont victimes de viol, la plupart se taisent, et ce qui est drôle, c'est que beaucoup préfèrent recourir à des arrangements à l'amiable avec les bourreaux ou les auteurs de victimes. Mais le problème de la dénonciation est encore un problème très, très sérieux, vous savez, beaucoup de femmes hésitent parce qu'elles savent que dès lors que vous allez dévoiler, que vous avez été violé, vous serez indexé par la société. Voilà un peu comment la situation se présente.
Alors comment expliquer que ces victimes soient restées longtemps sans être assistées ni même prises en charge?
Je crois, Nicole, vous savez que ces victimes de Dekissé particulièrement, on a plus pointé du doigt les auteurs comme étant les hommes en uniforme, parce que vous savez que la guerre de 1998 est passée aussi par Dekissé. Les hommes en uniforme ont été plus pointés. Mais quant au dossier de savoir pourquoi ces victimes sont restées longtemps sans être assistées, nous avons posé la question à M. Christ Touzayene Kabemba, qui est coordonnateur de l'antenne locale de Fonds de la Nations Unies pour la Population ici au Kasaï occidental, qui nous a fait voir qu'il y avait un projet qui avait été mis en marche, qui a bénéficié d'un financement de l'ordre de 150 000 $ américains. Et pour cela, il nous a expliqué comment cet argent pourra être utilisé pour aider ces victimes de violences sexuelles à décaisser.
La formation de personnel qui doivent en principe assurer la prise en charge. Donc, le deux médecins de la place, plus une quinzaine d'infirmiers et infirmières qui seront formés pour renforcer leur capacité en matière de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Du point de vue médical, nous avons prévu à réhabiliter deux ou trois patients de la maternité, plus quatre ou cinq locaux qui vont servir aux activités. Équiper la maternité qui va accueillir ces gens et fournir le produit.
Alors comment la population a-t-elle réagi face à cette nouvelle, Pierrot Lamégie?
Ok, cette nouvelle a réjoui beaucoup de personnes, et particulièrement les habitants du territoire de Dekissé. Mais ils ont, à un certain moment, ils veulent bien voir cela se réaliser ou cela s'accomplir, parce qu'ils disent que, vous savez, beaucoup de fois, on promet des choses comme ça et cela ne se réalise pas. Mais nous avons tendu notre micro au représentant de la communauté de Dekissé qui vit ici à Kananga. C'est Monsieur Fidel Lola. On écoute un peu sa réaction.
La population de Dekissé est très contente pour ces gestes, combien louables. Mais ce que nous demandons est que ça ne soit pas une mise en scène, parce que on a toujours fait des promesses, mais souvent ces promesses sont irréalisables. L'argent est débloqué, c'est bien, mais que l'argent arrive au destinataire. Quand nous aurons à bénéficier de ce service-là, nous ne serons pas ingrats.
Voilà. Donc, on va voir si réellement les promesses seront tenues, hein, avec vous, Pierrot et la Mégie, puisque vous aurez à faire le suivi, hein, pour nous à partir de là où vous vous trouvez. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. On espère vous retrouver très bientôt pour la suite des événements.
Ok, oui, oui, Nicole, merci beaucoup, mais je vous dis d'ailleurs que depuis hier, l'équipe de UNFPA accompagnée de médecins traitants sont déjà à décaisser depuis hier et je crois bien que les promesses vont se réaliser. Merci bien, Nicole, merci à tous les fidèles auditeurs et bonne journée.
Coucou, pour que la paix ne soit pas qu'une dérive.
Nous sommes nos propres pères, si jeunes et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères, si jeunes et si sérieux, mais ça va changer. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain. On n'en veut plus de beau temps. La scène est une idée à faire faire tout le temps. À suer, à marcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien, là où vit chaque jour comme le dernier. Vous feriez pareil si seulement vous saviez. Et quand les temps sont durs, on se dit pire que notre histoire n'existe pas. Quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile de faire. Oh, on voit combien tout est éphémère. Alors même en amour, chaque raison si c'était la dernière. C'est trop lourd quand on ne vit que sur des prières. Que je savoure chaque instant, bien avant que s'éteigne la lumière. Alors on chaque jour comme le dernier. Alors vivons pendant qu'on peut encore le faire. Mes chers, alors on vit chaque jour comme le dernier. Chaque jour,
de loin et c'est signé Corneille. On va poursuivre parce que là, nous avons notre invité qui est en ligne. C'est notamment Barthélémy Nkata. Il est inspecteur général des services judiciaires. Il est là aussi pour nous donner quelques solutions aux problèmes qu'on rencontre. Et nous parlons précisément d'un problème sérieux. Nous apprenons que dans le territoire de Dékessé, il y a plus ou moins 270 femmes qui sont tous les jours victimes de violences sexuelles, dont 50 souffrent aujourd'hui de fistules vesico-vaginales. Avec nous, on essaiera de savoir qu'est-ce qui est concrètement fait pour trouver des solutions à ce problème. Barthélémy Nkata, bonjour.
Bonjour madame.
On aimerait savoir pour commencer, qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui pour arriver à gérer ce problème de violences sexuelles, de viol à votre niveau? Allô?
Madame, les violences sexuelles, comme toute autre infraction, doivent être dénoncées auprès de l'autorité compétente. Et pour le cas d'espèce, les femmes de DQC qui seraient victimes de violences sexuelles doivent s'adresser à l'autorité locale, donc l'autorité judiciaire locale, qui après l'enquête préliminaire va transmettre le dossier au parquet de Bibo, je crois. Hein. Nous sommes au Kasaï occidental.
Oui, ça c'est... Oui, allez-y.
Et c'est à ce moment-là que l'OPJ pourra transmettre et son procès verbal et éventuellement les personnes impliquées pour violence sexuelle devant le parquet.
Mais comment expliquer que lorsqu'on arrête certains auteurs de viol, par après on apprend que ces auteurs de viol se sont échappés de la prison? C'est ça que beaucoup n'arrivent pas à expliquer.
Mais ce qu'on appelle la prison, d'abord, c'est pas un mécanisme légal. Hein. Donc l'évasion, c'est un comportement contraire aux lois. En principe, quand quelqu'un est arrêté, il doit rester en détention jusqu'à ce qu'un titre contraire vienne le mettre fin à cette situation-là. Mais il se fait que ceux qui ne se soumettent pas à l'arrivée de la loi utilisent tous les moyens pour fuir la prison, c'est ça qu'on appelle l'évasion. Et ces évasions-là sont favorisées par plusieurs facteurs. Il y a d'abord les prisons qui ont été construites bien avant l'indépendance. À l'heure actuelle, elles sont devenues des prisons que des noms, parce qu'il y en a qui n'ont même plus dont les murs se sont écroulés. Et ceux qui restent là-bas, ils restent parce qu'ils veulent bien, sinon ce ne sont pas des moyens, n'est-ce pas, des fils qui les manquent. Ça, c'est de un. Et de deux, avec les travaux extramuros, parce que dans le règlement de la prison, les prisonniers sont astreints à des travaux. Ces travaux peuvent se faire soit dans l'enceinte de la prison, soit en dehors de cette enceinte. Et quand ils le font en dehors de l'enceinte, ils doivent être escortés. Mais il arrive que on envoie des gens à l'extérieur de la prison avec des nombres d'escortes RSR, ce qui peut aussi favoriser les évasions.
Oui, mais parlons des auteurs de ces viols. Dans bien des cas, on pointe les hommes en uniforme. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, certains ont été mis aux arrêts?
Les hommes en uniforme sont justiciables des juridictions militaires. Et en principe, si le mécanisme que je vous ai décrit est respecté, l'OPJ, qui concerne l'infraction à charge d'un homme en uniforme, il les transmet non au parquet civil, mais au parquet militaire. Alors, est-ce que ces gens ont été traduits en justice là? Ce sont des renseignements qu'on peut, n'est-ce pas, chose, affirmer qu'on était à la source pour voir si effectivement ces gens-là ont été dénoncés. C'est que l'OPJ a ouvert le dossier et qu'il les a transmis soit au parquet civil, soit au parquet militaire. Donc, à l'endroit où je suis, je ne peux pas vous répondre soit par l'affirmative, soit par la négative.
C'est ça, mais est-ce qu'on peut néanmoins avoir une idée sur les sanctions qu'encourt un auteur de viol, qui commet un acte de viol?
Un viol simple est puni de 5 à 20 ans. Alors, s'il est aggravé, donc s'il entraîne la mort de la victime, c'est la peine de mort ou la sentence pénale à perpétuité. Et s'il est commis par plusieurs personnes aussi, la peine est aggravée. Et ça peut arriver aussi à l'emprisonnement à vie.
En tant qu'inspecteur général des services judiciaires, est-ce que vous avez déjà eu à condamner une personne qui a été accusée de viol ici au Congo?
D'abord, je vous réponds en tant que magistrat, parce qu'avant d'être inspecteur judiciaire, je suis magistrat. Et en tant que magistrat, j'ai eu à instruire beaucoup de dossiers de viol et les personnes ont été condamnées. Je me rappelle quand j'étais dans le parquet de district à Gemena, nous avions condamné plusieurs auteurs de viol. À Boende, la même chose, à Tshisangani. Donc un peu partout, les gens sont, ceux qui sont accusés et pour lesquels les faits sont établis sont toujours condamnés.
Oui, mais dans bien des cas, ils s'échappent de la prison et ils recommencent encore, ils récidivent à nouveau. C'est ça le problème aujourd'hui.
Mais c'est pas le problème des violences sexuelles, mais même les voleurs. Il y a des gens qui volent, on les arrête, après ils sortent pour aller recommencer. Donc la récidive, c'est un problème général qui s'applique à beaucoup d'infractions, parce que parmi les auteurs de violences sexuelles, on peut trouver des obsédés. Donc, il commet l'infraction aujourd'hui. Si demain l'occasion se présente, il va encore commettre.
C'est ça le problème.
Dès lors que la prison n'a pas servi de lieu d'amendement, l'auteur de l'infraction, même quand il s'échappe de la prison, même à l'expiration régulière de sa peine, il peut toujours retomber dans le même travers.
Raison pour laquelle aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à dénoncer les auteurs de viol parce qu'elles ont peur. Elles ont peur d'être à nouveau violées par ces personnes. C'est ça le problème. Alors vous, en tant qu'inspecteur général des services judiciaires, qu'est-ce que vous pouvez prendre comme mesure?
C'est-à-dire que le problème peut se poser en ce qui concerne les hommes en uniforme, compte tenu de la proximité de la victime et de l'auteur de l'infraction. Hein. Parce qu'effectivement, si la victime de violences sexuelles accuse et que l'auteur est encore en liberté et qu'il sait que c'est elle qui l'a accusé, il peut y avoir des mesures de représailles.
C'est ça le problème.
Mais ce qu'il faut, c'est que la justice puisse peut-être faire appel à certains mécanismes qui existent.
Depuis
1958-59, la loi a prévu des mesures de défense sociale. C'est qu'on peut condamner une personne et à l'expiration de la peine, on l'oblige à habiter à certains endroits ou à ne pas fréquenter certains endroits. Donc quelqu'un de DTC peut être condamné à aller habiter peut-être à Monévitou pendant autant d'années. Comme on peut l'envoyer peut-être à l'Équateur pendant autant d'années. Alors ce sont ces mesures-là qui peuvent faire que la victime peut se sentir à l'abri dès lors que l'auteur de l'infraction n'est pas dans ces parages.
Mais à condition que cet auteur de viol ne s'échappe pas de là où il est, hein. C'est ça aussi le problème.
Oui, c'est-à-dire si s'échappe, il commet une infraction, on peut toujours le rattraper.
On peut toujours le rattraper, mais c'est pas sûr. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vous suivent, Barthélémy Nkata, et qui réagissent. Nous avons par exemple la question de Papi Lombé de Kindou qui dit « Que doivent faire les victimes de violences sexuelles craignant les représailles des violeurs ou la réaction de rejet de la société ?»
Disons que le rejet de la société, c'est un problème d'éducation. Dès lors que la femme, donc le viol est une infraction. Donc c'est pas comme le cas d'adultère où les rapports, n'est-ce pas, se font de consentement mutuel. C'est quelqu'un qui a été victime d'une infraction. Alors il faudrait qu'on puisse considérer les victimes de viol comme toutes autres victimes d'une infraction, plutôt que d'en faire un objet d'en faire des parias. Donc il faudrait que la population puisse les considérer donc comme victimes et leur accorder toute l'attention et toute considération, n'est-ce pas, qu'elles méritent.
Et est-ce qu'aujourd'hui...
Alors, oui.
Est-ce qu'aujourd'hui les autorités sont capables de mettre fin à cette sauvagerie? Ça, c'est la question que vous pose Paulette Koussala depuis Kikuit.
Les autorités ne peuvent mettre fin à la sauvagerie qu'en recourant à la répression. C'est-à-dire que dès que l'infraction se commet, il faudrait que la sanction suive dans les jours qui viennent. Alors cela implique l'omniprésence de la répression, c'est-à-dire que un peu partout qui est des OPJ, capable donc de recevoir les plaintes des victimes et de mettre la main sur les victimes.
Est-ce que c'est possible?
Les auteurs plutôt.
C'est possible aujourd'hui qu'il y ait partout, en tout cas, oui. Est-ce que c'est possible?
Mais je crois qu'à l'état actuel des textes, nous avons des OPJ un peu partout. Dès lors que dans chaque bureau de police ou de commissariat de police, il y a des OPJ. Dans chaque poste administratif, que ce soit au niveau du secteur, au niveau du territoire, il y a des OPJ. Donc je vois que les OPJ sont suffisamment nombreux. C'est question qu'on peut se recourir à eux.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Barthélémy Nkata, inspecteur général des services judiciaires. On aura certainement à vous rappeler prochainement dans ce studio pour développer avec nous un autre sujet. Merci encore et à la prochaine.
Merci, madame.
On va poursuivre parce que nous avons maintenant en ligne un autre invité, c'est le docteur Epamposa de l'hôpital Saint-Joseph de l'Unité. Toujours sur cette question concernant les violences sexuelles, on aimerait savoir, docteur, tout d'abord bonjour.
Bonjour.
On aimerait savoir, pour commencer, qu'est-ce que vous faites concrètement en ce qui concerne la prise en charge des personnes qui sont victimes de viol ou encore des personnes qui ont été violentées?
Merci beaucoup pour la parole. Et pour la prise en charge médico-sanitaire, il y a beaucoup de processus que nous suivons. D'abord, il y a dès que les victimes arrivent, il faut établir une fiche médicale. Dans la fiche, là, il y a l'identité, il y a l'adresse, et il y a son âge aussi, et il y a le locataire aussi. Après avoir établi la fiche, maintenant, il faut examiner la victime. Et l'examen doit se faire dans un bureau calme qui nécessite une confidentialité et en suivant les principes directeurs. Dès qu'on termine, on fait un examen complet, les délits de l'anamnèse, comme on fait, comme nous sommes les médecins ou les autres paramédicaux, jusqu'à la fin. Après, on documente les lésions. S'il y a des lésions qui sont minimes, on donne un traitement symptomatique. Et s'il y a des lésions qui sont un peu majeures là, on donne un traitement chirurgical, ça dépend du type de lésions. Dès qu'on termine, on donne un traitement. Et le traitement, c'est en fonction du délai de la prise en charge des victimes. Si la victime a été violée avant 72 heures, on donne un traitement préventif pour éviter la grossesse et pour éviter les maladies sexuellement transmissibles. Si le délai est dépassé 72 heures, on donne un traitement préventif d'autres maladies sexuellement transmissibles, traitement des infections. Mmh. Et après, on commence à suivre la personne. Il y a une série d'examens qu'on demande aussi, et les examens des soudains comme les examens témoins qu'on demande, et après d'autres examens qu'on fait. Dès qu'on termine ces examens-là, il faut fixer un rendez-vous après 10 jours que la victime va rentrer au...
Voilà qui est précis. Mais une précision, parce que bon nombre vont se dire, vous êtes ici à Kinshasa, à l'hôpital Saint-Joseph de l'Unité. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu à faire face à certains cas de personnes, de femmes victimes de viol?
Oui, plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai au total 54 cas que j'ai déjà reçus. Mais parmi les 54 cas, il y a 3 cas que j'ai reçu des cas majeurs qui n'ont pas nécessité de suture à la salle d'offre. Les autres cas, c'est un peu des cas derniers, là. Ils étaient rien qu'un traitement préventif sans recourir à la salle d'offre ni à des sutures.
Est-ce que ces personnes ont eu à vous dire qui étaient les auteurs de ces viols?
Oui, oui. Et les auteurs sont multiples et la majorité des cas, ce sont des hommes en uniforme qui sont des auteurs de ça. Et des civils aussi sont des auteurs.
Et parallèlement à ce problème, nous apprenons que au Kasaï occidental, le territoire de Békéssé vient en tête avec 270 femmes qui sont victimes de violences sexuelles, dont 50 souffrent aujourd'hui de fistules vésico-vaginales. Ça veut dire quoi ça exactement?
Les fistules vésico-vaginales, ce sont des fistules qui sont dues à des violences un peu, à des troubles un peu majeurs, là. C'est-à-dire, chez nous, ça c'est un peu difficile avec ces gens-là, parce que ces gens-là, ils font de violences comme l'arme de guerre. Après avoir violé des victimes, ils prennent peut-être des morceaux de bois, ils sont en train d'introduire dans leur orifice vaginal, ils prennent même un arbre, ils introduisent dans l'orifice vaginal. Après, il faut savoir des communications entre les vagins et l'utérus, ou bien soit entre les vagins et la vessie. Et ça nécessite c'est un grand problème parce que ça nécessite d'énormes moyens pour faire la réparation.
Et nous apprenons qu'il y a de plus en plus de cas de ce genre.
Alors,
il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui le nombre de personnes violentées, surtout des femmes victimes de viol et qui ont des problèmes de vésico-vaginal, ne fait qu'augmenter ici au Congo. Il y a un auditeur même qui nous dit, il s'appelle Dadi Mola Massina, il nous dit, Ngaïnaï Bakate, parce qu'il parle en lingala. Il dit, Ngaïnaï Bakate, Basi Yango, Bango Moko Balingara Yango, Balakisaka Batuanate, pourquoi? Nous dit-il, pourquoi cette femme ne dénonce pas les auteurs et pourquoi ces auteurs ne sont pas aux arrêts aujourd'hui, selon vous?
Mais c'est un grand problème parce que ça fait, on était d'ailleurs au campus 4 jours des colloques là, sur ces mêmes problèmes-là. Et moi, je pense que c'est un problème de sensibilisation. Je pense que la population n'est pas vraiment assez sensibilisée sur les matières et les violences sexuelles. Même s'ils sont sensibilisés, mais pour aller au niveau, parce qu'il y a plusieurs sortes de volets, il y a les volets médico-sanitaires, il y a les volets juridiques, les volets psychosociaux et les volets de réintégration aussi. Mais tandis que les volets juridiques, on dirait les victimes en soi, ils ne sont pas ne reconnaissent pas les violés. Là. Parce que parmi les cas que j'ai reçus, je leur ai même proposé que je peux vous amener dans le volet juridique, on peut vous prendre en charge. Mm. Il y a d'autres personnes qui étaient un peu hésitantes. Là,
ils avaient peur.
On ne voulait pas, on voulait peut-être des réseaux.
Ils avaient peur.
À l'amiable. Là, moi, je pense que c'est un grand problème de sensibilisation aussi. Comme il y a la nouvelle loi aussi, c'est mieux qu'on puisse faire un peu l'effort de commencer à parler à des radios, comme maintenant nous sommes en train de faire ça, de sensibiliser à plus aussi beaucoup de gens aussi à surtout d'autres volets médico-sanitaires et à suivre. C'est pour ça, sera une bonne chose aussi.
On aura à revenir là-dessus, hein, parce qu'on on retient une chose, c'est que la plupart des victimes ont peur, parce que les auteurs de ces viols récidivent à nouveau, on les arrête. Pour certains, ils sont arrêtés, mais après, ils s'échappent facilement et ils recommencent à nouveau leur crime. Alors c'est ça le problème aujourd'hui. Hein. On aura à revenir là-dessus, docteur Pampoupa de l'hôpital Saint-Joseph de l'Unité, avec vous prochainement. J'espère que vous serez dans ce studio hein, pour répondre à toutes les questions. Mais aujourd'hui on s'arrête là. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci beaucoup. Merci.